Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 31 de ce vendredi 19 janvier. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Les gars de la presse sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume.
Salut JR.
Nous avons live from Boston, Richard Labbé. Salut Richard.
Salut JR.
Et nous avons pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon, là les gars, je veux savoir quel genre de balado nous aurons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des optimistes ou nous sommes des pessimistes ou là, Richard Labbé va me dire nous sommes réalistes. je veux savoir, dans cette semaine, là, il reste un match. Évidemment, il y aura les Bruins de Boston ce week-end et ça tombe bien, Richard est là, on pourra en parler un petit peu plus longuement tantôt. Mais je veux savoir comment on doit voir ce qui s'est passé au courant des derniers jours. Donc, une victoire face au Colorado, une victoire face aux Devils New Jersey et tu perds le match 6-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il faut retenir les 4 points sur 6 ou la défaite de 6-2 face aux Sénateurs? Je commence avec Guillaume.
Je me range dans le camp des optimistes.
Ah, oh.
Du verre à moitié plein. C'est 3 matchs en 4 soirs, dont 2 en 2 sur la route. Ton match facile, et là je fais des guillemets avec mes mains, mais ton match à domicile, ben c'est contre Colorado. Donc tu sais, je veux dire, je pense que sur papier, 4 points sur 6 dans ça. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. En plus, les deux victoires, ben c'est, je pense que c'était des victoires méritées. C'est-à-dire, c'est pas des victoires où le gardien a volé le match puis a été bombardé sans arrêt. Puis tu sais, c'était pas des matchs à sens unique du tout, même que le Canadien dans les deux victoires a mené 5-1 dans les buts à 5-5. Okay. Donc tu sais, je veux dire, je pense que en regardant tous ces indicateurs, ça fait comme ben moi j'ai pas de problème. Après ça, oui, la défaite était absolument pas chic là du tout. Mais ça reste que dans l'ensemble globalement, sachant que qu'ils ont été chercher deux victoires et deux victoires pas nécessairement à l'arracher, pas des vols, moi je trouve que c'est quand même un bilan positif.
OK. Richard, de ton côté, comment on voit ça, les 4 points sur 6 ou la défaite de 6-2 face aux Sénateurs?
Ben écoute, je vais me ranger dans le rang des réalistes, JR, comme d'habitude. Alors, je te rappelle que ce club-là, au moment où on se parle, a une fiche 500. C'est drette sur le nez, là. 500, c'est écrit de même. Alors, honnêtement, moi, je suis aucunement surpris. Je suis surtout, je pense, probablement un petit peu abasourdi, comme bien des gens, de constater que ce club-là joue constamment à la hauteur de ses adversaires. C'est vraiment dur à expliquer, mais c'est tout le temps comme ça. Le club joue très bien. On l'a vu récemment contre l'Avalanche, contre les Oilers, joue très mal. On l'a vu aussi très récemment contre les Sénateurs. Et ce bout-là, je pense, en tout cas, si j'étais Martin Saint-Louis, ça me garderait, ça me tiendrait éveillé la nuit. Je sais pas comment tu expliques ça. Et tu peux pas être un club de 500 tout le temps non plus si tu veux espérer avancer. Alors, c'est ce que je retiens. Puis, tu sais, j'ai entendu Guillaume parler des 3 matchs en 4 soirs. Tu sais, je pense que c'est une réalité, ça, qui afflige tout le monde dans cette ligue-là, pas seulement le Canadien. Les calendriers compacts, c'est la réalité de tout le monde. Et je pense que moi, c'est surtout ce bout-là que je pense que j'ai de la misère à m'expliquer. D'ailleurs, le Canadien est incapable d'enfiler des séries de victoires là, cette saison. Jamais, depuis le début de l'année, le Canadien en a gagné 2-3 de suite. C'est jamais arrivé 3 de suite, ça arrive pas. Je regarde le classement, les Flyers qui sont peut-être un petit peu meilleurs que le Canadien sur papier, mais c'est pas nécessairement une puissance. Ben, les Flyers viennent d'en gagner 5 de suite. Donc, c'est possible de le faire, mais le Canadien n'est pas capable de le faire. Et c'est ce manque de constance, ou en tout cas cette incapacité de devenir plus que seulement un club de 500 qui, moi, m'inquiéterait.
OK. En fait, pourquoi je pose cette question-là, c'est qu'en préparant le balado, je me suis dit, qu'est-ce que les gars vont vouloir plus parler? Qu'est-ce que les gars et qu'est-ce que tous ceux qui écoutent vont vouloir entendre? On va passer sous silence la bonne performance du Canadien contre l'Avalanche, la bonne performance contre les Devils? Parce qu'hier, c'était un match ordinaire de la part du Canadien. Et là, c'est là que je me suis dit, comment doit-on voir ces 3 derniers matchs? Stéphane, toi, comment tu les vois, ces matchs-là?
Ben, j'ai beau un peu que, comme Richard vient de dire, encore c'est l'inconstance. L'inconstance qui dans les performances où souvent on va avoir des très bonnes performances et quand on commence à dire waouh, cette équipe là joue bien, bang, ils nous ramènent sur terre tout le temps. Et puis en général, je suis optimiste par rapport à cette série des trois derniers matchs parce que écoute, on a joué du gros hockey très impressionnant. Cette équipe-là nous a montré qu'ils sont capables de compétitionner avec les meilleurs et c'est ça que je retiens plus que la déconfiture d'hier soir. Hier, écoute, c'est attribué. Oui, j'aime pas cette excuse-là du 2-2, mais c'est la réalité quand même. Mmh. J'aime pas l'excuse du 3 matchs en 4 soirs, mais c'est la réalité quand même. Et hier, faut aussi dire, le Canadien a eu un bon début de match, mais le premier but a fait mal. Et puis ça a comme cassé les jambes à une équipe qui, quand tu joues un 2-2, ça te prend un bon début de match. Et hier, écoute, faut l'avouer, là, je le protège tout le temps, puis je vais tout le temps protéger le gardien de but. Mais hier, Caden Primo, sur 5 buts qu'il a donnés, il y en a 4 qu'il aimerait revoir, et ça fait très mal.
Oh, quand même, 4 sur les 5. Moi, en tout cas, les deux premiers, c'était de bons lancers, mais côté bâton... Ben,
c'est des bons lancers. Sans dire que c'est des mauvais buts, c'est des lancers qu'un bon gardien de but devrait arrêter.
J'ai la même lecture que Stéphane, je le dirais. Puis soit des tirs arrêtés, puis sinon aussi il y a un mauvais retour qui a mis vraiment dans l'entlave. Okay. Donc tu sais, ça aussi c'est ça, ouais, des tirs de loin. T'sais, moi personnellement, le but de Toudy là, le deuxième, je pense que ça c'était quand même un bon tir d'un bon tireur qui arrivait hors l'aile. Donc ça va, mais pour le reste là, j'ai effectivement c'est tu parlais du 2 en 2 puis du 3 en 4. Ben tu sais, quand tu arrives dans des situations pas faciles comme ça, et clairement le Canadien avait pas nécessairement ses meilleures jambes là pour ce match-là. Mm-hmm. Ben sans dire que tu as besoin que ton gardien sauve les meubles toute
faut
la soirée.
Il faut qu'il t'aide
au moins. Puis je pense pas que le Canadien avait l'énergie puis les jambes pour se remettre de mauvais buts comme ça qui tue un petit peu le momentum.
Par contre, quand tu joues deux matchs en deux soirs, les équipes qui ont de l'expérience ou les bonnes équipes sont intelligents dans leur façon de jouer le deuxième match. Dans le deuxième match, premièrement, comme tu as dit, Guillaume, ça prend une bonne performance de ton gardien de but. Ça, c'est la chose numéro un. Mais la chose numéro deux, c'est sois intelligent. Tu as joué la veille. Donc, essaye pas de forcer le jeu. Essaye pas de provoquer des choses. Essaye pas de faire des jeux où ce qu'il n'y en a pas. Garde ça simple. Joue la petite game plate. Et ça, Martin Saint-Louis l'a mentionné hier après le match, ou trop de revirements, ou qu'on a forcé le jeu où il n'y avait pas de jeu, et ça au lieu de juste mettre la rondelle dans le fond de la zone et puis jouer une petite game intelligente. Et les meilleures équipes, les équipes expérimentées, sont capables de faire ça dans le deuxième match d'un 2-2.
OK, Richard, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, mais j'allais dire deux choses. Premièrement, on parle de Caden Primo qui, à mon avis, de ce ménage à 3, c'est clairement lui le perdant. Hier, c'est seulement son 10e match depuis le début de l'année. Il joue pas souvent. Et là, tu l'envoies, OK, sur une glace où, bon, le Canadien a techniquement des chances de gagner. Les Sénateurs, c'est pas une puissance. Mais tu l'envoies après une absence quand même. C'est souvent lui qui joue le moins. Et puis, un mauvais but, deux mauvais buts dans un cadre où lui, il est peut-être un petit peu rouillé. Je sais qu'il est censé être prêt. Je sais que c'est un gardien de la Ligue nationale, mais c'est une réalité. Il joue pas souvent. Donc, c'est sûr que lui, sa marge d'erreur est très mince. L'autre affaire, 37 tirs de la part des Sénateurs. Je me reviens un petit peu à ce que Stéphane vient de dire. Là. Si tu comprends un petit peu la situation, tu as joué la veille, peux-tu être plate, ferme le jeu, appelle Jacques Lemaire, dis-lui comment on fait pour jouer comme les Devils de 1994, là. Puis garde, accorde 12 tirs, mais accorde-en pas 37, c'est sûr que tu ne places pas ton équipe en situation de gagner, et c'est sûr que ton pauvre gardien de but qui en est seulement à son 10e départ, ben lui, tu ne le mets pas dans une situation de succès non plus.
OK. Là, les gars, j'avais un sujet de prévu dans notre deuxième portion, mais je vais le faire immédiatement parce que moi, je trouve que le Canadien, c'est un club qui est fragile. Et là, je vous explique. Si le Canadien se fait marquer le premier but, oups, on devient fragile. Si tu te fais frapper, oups, on devient fragile. Si ton gardien accorde un mauvais but, oups, on devient fragile. Est-ce que c'est une lecture que vous faites également ou je suis le seul à penser ça, Stéphane?
J'aime ça, oui. Mais écoute, la troisième des raisons, quand l'adversaire, quand ton gardien de but donne un ou deux mauvais buts, ça, il y a beaucoup d'équipes qui ont de la misère à s'en remettre.
Okay.
Mais le Canadien, où là, où ce que une des ces trois affirmations m'a fait est la plus réaliste pour moi, ou le plus il y a plus d'impact, c'est quand on se fait frapper. Les équipes, quand on dit bon, on va y frapper, on va mettre beaucoup de pression sur le défenseur, c'est là que ça devient un petit peu le free fall dans notre zone. Et moi, là, je suis l'entraîneur d'une équipe qui joue contre le Canadien, je lui dis c'est la pression sur les défenseurs. Et après ça, là, wow, ils sont dans le trouble.
Parce que, sincèrement, tu regardes, l'Avalanche du Colorado, ça patine. On est en possession de rondelles. C'est extrêmement rapide. Les Devils du New Jersey, c'est la même chose. Le Canadien, j'ai l'impression que c'est ça, sa game. Tu comprends?
Oui.
C'est du hockey. Je veux pas dire du hockey dans la rue, mais c'est du hockey ouvert. Mm-hmm. Très rapide, ouvert, ça va bien. Quand tu joues serré, les Sénateurs d'Ottawa, c'est au pic et appel avec du talent. Ça frappe, ça met de la pression ses défenseurs. Oh mon Dieu, là que ça devient compliqué. Là tout est complexe. On rate nos sorties de zone. On patine plus. À un moment donné, Brendan Gallagher bougeait plus, recevait rondelle, essayait juste de faire des flips. On était même pas capable de sortir du territoire. C'est peut-être ça la clé contre le Canadien. Il faut que tu frappes.
Oui, puis d'ailleurs, le match contre les Devils, je parlais du joueur 5 contre 5 tantôt. T'sais, dans ce match-là, le Canadien a eu l'avantage 3-0 à 5 contre 5. Les Devils ont marqué en avantage numérique les deux buts, mais à 5 contre 5, il se passait rien. Et l'attaquant, je trouvais qu'il ressortait le plus pour les Devils, c'était Curtis Lazar, qui frappait justement et qui a cogné dur. Et c'est ça, je trouve que ça rejoint le point que vous dites, là, d'aller mettre de la pression, d'aller frapper en fond de territoire les défenseurs. Ben c'est là que ça crée des choses, parce qu'il a vraiment été, je trouve, celui qui ressortait chez les Devils là, à force égale.
Fait que ça veut dire, Richard, là, si on recule, là, on était, mettons, là, une dizaine d'années avant, là, on dirait, ouais, mais le Canadien, c'est pas un club bâti pour les séries.
Mm-hmm. Mais là, il n'y en aura pas de série, fait que ça sert à rien.
Ah bon, OK.
Fait qu'on bâtit pour la saison régulière.
On bâtit pour la saison régulière, c'est ça, on veut juste ça faire.
Ouais, ben, puis d'ailleurs, c'est dommage d'entendre ça. Tu sais, là, je suis chez Boston, puis ce matin à Boston aussi, tu avais l'entraîneur Montgomery qui parlait. Parce que je lui demandais un petit peu comment ça se fait là, qu'à Boston, à chaque année, vous êtes toujours dans le coup, puis vous êtes toujours vers le haut du classement, pas vers le bas. Puis ce qu'il a parlé, et je trouvais ça intéressant, il parlait du standard d'excellence ici que l'on cherche à maintenir à chaque fois, en pratique, n'importe comment, dans un meeting, en tout moment, on veut s'accrocher à ça. Il disait que c'est Zdeno Chara, en arrivant ici, qui avait vraiment casser les oreilles de tout le monde avec ça, puis qui frappait des gars à l'entraînement parce qu'il leur disait « Vous devez vous entraîner comme vous allez jouer. » Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a un certain standard à Boston et qu'on veut le maintenir. On a bien repêché, évidemment. Puis on voit, là, cette année, il y a quand même un gars important, Patrice Bergeron, qui n'est plus ici, mais malgré tout, le club continue à gagner parce qu'on a de la profondeur. Je comprends pas pourquoi le Canadien de Montréal n'est pas capable de au moins adhérer à quelque chose de similaire. Tu sais, tu arrives ici puis on te parle de ça, de standard d'excellence. Puis pendant ce temps-là, ben, du côté du Canadien, on parle de reconstruction puis de patience, puis de soyez patient, puis ça s'en vient, puis attention. Je comprends pas vraiment comment les deux organisations sont dans des chemins aussi différents depuis les 15 dernières années.
C'est fou quand même, parce que en troisième période, le Canadien tirait de l'arrière, c'était quoi, 5-1, quelque chose comme ça, avec quoi, 8, 9, 10 minutes à faire. Et Martin Saint-Louis a décidé de retirer son gardien. Finalement, on a marqué du côté des Sénateurs d'Ottawa. Et après le match, il a dit, tu sais, si t'essaies rien, ben t'auras rien. Là, je me suis dit, tu sais, c'est quand t'as un coach qui est en arrière du banc, qui peut pas embarquer sa glace, qui essaye de faire quelque chose pour changer la game, t'es obligé de relancer un peu tes joueurs, parce que sinon, tu sens que c'est comme ça s'en va un peu nulle part, cette histoire-là, Stéphane.
Ben moi, j'haïs pas ça, dans le sens, lui, il lance un message, c'est que moi, j'abandonne pas, puis moi, j'y crois, puis moi, je veux gagner. C'est ça qu'il lance comme message. Et puis, c'est sûr que les chances de réussite rendues à 5-1 étaient très, très minimes. Mais comme il a dit, il veut dire, reste 8 minutes, tu marques un but, c'est 5-2, oh, là, t'as un avantage numérique, oh, 5-3, puis après ça, mais on sait pas. Fait que j'haïs pas ça. De dire, gars, si t'essayes à rien, t'auras rien. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est le message que tu lances à tout le monde. Et surtout à tes joueurs, c'est, gars, on est ici pour gagner, j'abandonne pas, même à 5-1. Autre chose, la seule bémol là-dessus, c'est comment éventuellement, écoute, le Canadien ne fera pas les séries. Mais éventuellement, si tu es dans les séries ou tu es proche d'avoir une place dans les séries, peut-être que ça peut te faire mal parce que ça peut te faire mal au différentiel. À un moment donné, là, on a le pire différentiel dans la Ligue, là, je veux dire, dans l'Est à moins 31, mais puis mais qu'on soit moins 40 ou moins 50, ça change rien dans la situation du Canadien. Mais à un moment donné, le différentiel peut te faire mal. Puis, et c'est des choses de même, il va falloir que tu fasses attention. Mais pour l'instant, dans le contexte où ce que le Canadien est, j'ai aucun problème avec ce qu'il a fait hier. Puis j'aime ça.
Ouais, puis moi non plus. Puis au-delà des chances de victoire, je pense que c'est aussi sinon que tu dis dans le pire des cas, ben si on peut finir le match, tu sais, de façon positive, à remonter comme tu dis, si t'en viens à marquer deux buts, t'es à 5-3, au moins t'as fini sur quelque chose de correct, puis t'as généré un certain enthousiasme, un sentiment d'urgence, peu importe, dans la fin du match. Donc j'ai pas de problème, mais disons que c'est pas exactement là que ce match-là s'est joué.
Ben non.
OK, là, on va se parler de Cole Caulfield parce que c'est un quatrième match de suite avec un but. Allons dans l'onglet positif. Ça fait du bien un peu. Donc, l'onglet positif nous dit que quatrième match de suite avec un but pour Cole Caulfield. Alors, Richard, je commence avec toi. La phrase magique, est-ce un retour à la normale ou juste une bonne séquence?
Par retour à la normale, t'entends qu'il devrait marquer à chaque soir, c'est bien ça?
Ben non, pas à chaque soir, mais tu sais que l'an passé, disons qu'il était un petit peu plus fréquent avec sa touche offensive. Fait que donc, est-ce que tu sens que la touche offensive est revenue ou c'est juste un bon petit moment, mais ça va arrêter?
Ben, tu sais, on parle souvent de certains joueurs qui sont des joueurs de séquence, puis j'ai un peu l'impression que lui, c'est le cas, malgré tout. Tu sais, on parlait de constance tout à l'heure dans le jeu en général de cette équipe-là. Et là, bravo, là, il est sur une très bonne séquence, mais lui doit faire en sorte que ça arrive plus souvent que moins souvent. Je pense que probablement que c'est, souvenez-vous, là, je reviens souvent avec ça, mais en septembre, on se demandait tous si Cole Caulfield allait faire soit 40, soit 50 buts. Évidemment, ça sera même pas proche de ça. Mais les meilleurs marqueurs dans cette ligue-là sont ceux que tu vois à chaque soir, là, offensivement. Lui n'est pas encore là. Est-ce qu'un jour, il le sera? Probablement que mieux entouré, je pense, qu'il pourrait arriver à ça. Mais en attendant, c'est une bonne séquence parce qu'à mon avis, en attendant, Cole Caulfield demeure ça, un joueur de séquence.
OK, Stéphane, est-ce que tu vois ça comme juste un bon moment ou tu sens qu'il a retrouvé sa touche?
Ben, je sens qu'il a retrouvé sa touche. Et puis moi, c'est deux choses. C'est premièrement... la confiance, tu vois qu'il est plus confiant. Quand il lance, là, tu vois qu'il est beaucoup plus confiant, puis la confiance amène la production. Autre chose, c'est que faut pas oublier que Cole Caulfield a appris de jouer avec des attentes. Et puis, surtout avec le nouveau contrat, le gros contrat qu'il a signé. Mais écoute, c'est normal que là, il y a des attentes. Puis quand tu as des attentes, c'est quoi? Mais ça amène pression. Et ça lui a mis une pression. Des fois, il lançait trop vite. Ou des fois, il lançait trop lent. Ça lui prenait trop de temps. Ou une hésitation. Ou il y a une petite pression sur ses épaules qu'il n'avait pas à ses débuts. Et puis, quand on parle depuis le début de la saison, on parlait de 40 buts. Écoute, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il n'a jamais joué encore une saison complète dans la Ligue nationale. Mais ça a créé des attentes. Et puis, j'ai comme l'impression que le kid apprend à gérer ses attentes-là, puis plus qu'il va apprendre, puis plus qu'il va être habitué à ça, je suis pas inquiète pour lui, il va marquer des buts.
Guillaume, comment t'évalues ça, Caulfield?
Ben, les quatre buts en quatre matchs, faut en prendre puis en laisser, c'est-à-dire que sur deux des quatre buts, je pense que c'est des tirs que les gardiens auraient dû arrêter. Celui d'hier par Korpisalo, l'arrêt partiel,
oui.
Et celui contre l'Avalanche aussi, oui. Où le gardien avait laissé vraiment le coin extérieur.
Ouais, non, mais attends, c'est quand même un laser dans le coin. Là.
C'est un beau tir bien placé, mais je pense
OK, attends, on va aller voir l'expert des gardiens de but. Stéphane, est-ce que Georgiev...
J'ai pas aimé ce but-là. C'est pas un but qu'un bon gardien de but doit donner. Écoute, là.
Je vais trancher la poire en deux. Tu me dis ça après la game, je te parle plus jamais. Voyons donc.
Ben, moi, j'ai pas aimé ce but-là. La technique on l'appelle la fameuse technique du reverse VH, là, était pas appropriée pour cette situation-là. Rafflu qui switch en papillon. Mais je vais trancher la poire en deux. Un but qu'un coach et gardien de but aime pas, mais un très, très bon lancer. C'est tout un lancer quand même.
Bon, écoute, on est sur le bord de s'entendre. Ouais. Bon, vas-y, continue, Guillaume.
Ben, donc oui, effectivement. C'est sûr, il n'y a peut-être pas beaucoup de joueurs du Canadien qui auraient marqué ce but-là. Ça, je le reconnais. Ça reste que c'est ça. C'est deux des quatre tirs qui auraient peut-être pas rentré contre des gardiens un petit peu plus sharp, si vous me permettez l'expression. Donc ça, à cause de ça, je garde un petit peu de réserve. Par contre, c'est niaiseux, mais le but au New Jersey, à l'inverse, qui était vraiment pas un beau but pour les Jeux de la semaine, ben c'est un but. Puis tu sais, Martin Saint-Louis a donné une réponse à peu près une minute sur Caulfield.
Quand il est dans l'enclave, là.
Exactement, puis qui fait juste pousser la rondelle. Mais je veux dire, c'est ça, il est resté dans l'action, près de la peinture bleue, tout ça, et il a marqué comme ça. Donc ça, c'est des signaux intéressants. T'sais, on le sait, là, Saint-Louis, son but cette année, c'est de faire de Caulfield un produit fini, c'est un produit un peu plus fini, plus complet, qu'il soit pas juste un joueur unidimensionnel. Hier, en première période, pendant qu'il y avait encore un match, on l'a vu faire quelques bons jeux en repli défensif aussi, des choses comme ça. Donc, tu sais, c'est des choses, je trouve, qu'on voyait pas nécessairement autant l'an passé. Alors, c'est plus ces indicateurs-là que je regarde, tu sais, qui me semblent être encourageants pour Caulfield. L'autre chose que j'ai hâte de voir aussi, c'est en avantage numérique. Tu sais, je sens quand même que certains soir, ça va mieux qu'en première moitié de saison jusqu'ici. Une des choses qu'on remarque, là, c'est que le Canadien a développé une nouvelle option avec Slafkovský du côté droit à l'embouchure du filet, dans le fond. Et ça, j'ai hâte de voir dans quelle mesure que ça va ouvrir les choses pour Caulfield de l'autre côté. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Puis ça pourrait peut-être lui permettre d'avoir du succès sur une base plus soutenue en deuxième moitié.
OK.
Mais n'oubliez pas, j'allais dire juste, Jérémy, un instant, juste une petite affaire que je veux rajouter. L'an passé, pas à pareille date, mais en tout cas, après 46 matchs, c'est à peu près la même chose que maintenant, il était à 26 buts. Là, il est à 15 après 45. Donc, froidement analysé, c'est peut-être pas, je pense, en termes de progression, je pense que la direction du Canadien aimerait le voir pas mal plus en avant que ça. D'ailleurs, Kent Hughes en a glissé un mot là, lors de son bilan à demi-saison lundi, à savoir que clairement, les rondelles dans le filet pour Cole Caulfield devraient survenir plus souvent que ça.
OK, on fait un survol avec Joshua Roy maintenant, lui qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey cette semaine. C'est quoi votre analyse? Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Quel regard portes-tu sur Joshua Roy?
Ben, après quatre matchs, j'aime premièrement l'utilisation. On l'utilise régulièrement, mais pas trop. Il joue en moyenne 12 minutes par match dans les quatre derniers matchs, ce qui est parfait pour un jeune qui arrive comme ça, pour l'introduction à la Ligue nationale. Mais qu'est-ce qu'on voit de lui? Puis aussi, j'aime au niveau de l'utilisation, le fait qu'on l'utilise, ils n'ont pas beaucoup de temps de glace, mais sur la deuxième unité d'avantage numérique, ça, c'est le fun pour... Et c'est là qu'il devrait être un talent de même. On voit du talent, on voit un bon passeur, on voit un gars qui a du flair pour aller au filet quand c'est le temps. Encore hier, deux lancers au but, mais deux bonnes chances de marquer. Et puis, c'est un flair qui s'enseigne pas. D'aller au filet, puis d'être là au bon moment, et puis d'être là sur des lancers, des retours de lancers, des rondelles libres, de trouver l'espace proche du filet. Ça, là, ça s'enseigne pas. Puis ça, tu vois qu'il l'a. Tu vois que le gars est intelligent avec la rondelle, est un bon passeur, un gars qui peut marquer. Ça, c'est tous les côtés positifs. Les côtés négatifs, je pense qu'il manque encore un petit peu de rapidité pour la Ligue nationale. Il devrait améliorer son patin. Et aussi, physiquement, c'est difficile pour lui. À 20 ans seulement, son corps n'est pas mature encore. Et je pense que tout ce qu'on voit, c'est du positif, mais il reste encore du millage à aller chercher dans la Ligue américaine, selon moi.
Il y a Sean Monahan qui a dit, tu sais, quand ce gars-là va prendre la confiance, ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale de hockey. Richard, est-ce que tu vas dans le même sens que Monahan en disant, écoute, si à un moment donné il améliore, il sera capable peut-être d'offensivement amener quelque chose pour le Canadien?
Oui, absolument. Il ne faut pas oublier que Joshua Roy, présentement, est ici en raison des circonstances. Là, dans un monde idéal, il n'est pas ici. Là, il y a des blessés, évidemment, puis il a fallu faire des rappels. Puis lui, on a décidé de le rappeler. C'est parfait. Il est en audition présentement, Joshua Roy. Il n'est pas en train de jouer sa carrière ou quoi que ce soit, mais il est en audition. Et lui, ce qu'il doit faire, c'est de tenter de montrer quelque chose en vue de la prochaine saison, là, probablement. En attendant, tout ce que Stéphane a dit, c'est pas mal ça. Hier soir, tu sais, je le regardais aller deux. Il y a quand même deux tirs hier soir lors du match contre les Sénateurs. c'est quand même quelqu'un, je trouve, que l'on voit engagé malgré un temps de jeu limité. Le jeu du soir, c'était 12-27 à Ottawa. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles lui peut bâtir. Moi, c'est ce que je retiens. T'sais, il va certainement repartir à Laval éventuellement. Sauf que là, il va pouvoir prendre ça. Il va pouvoir s'asseoir avec ça et dire « OK, voici ce que j'ai fait et maintenant, voici sur quoi je dois travailler. » Pour moi, ça, c'est bien important. Lui doit voir ça. Encore une fois, c'est une audition. Tu vas t'en aller, tu vas revenir éventuellement. Mais en attendant, c'est vraiment travailler sur des aspects de son jeu parce que, comme c'est là, il est pas encore tout à fait prêt pour tenir un rôle régulier avec cette équipe-là.
Ce qui est le fun au moins chez les Canadiens comparativement aux années passées, c'est qu'on l'amène dans un rôle offensif. Mm-hmm. Souvenez-vous, mm-hmm. Là, un moment donné, là, quand tu pognais un jeune de la Ligue américaine qui arrivait, un bon marqueur, il était sa quatrième ligne. Là, on le met avec des joueurs offensifs parce qu'on veut... Oh. Tenter de voir à quoi il va ressembler offensivement, Guillaume.
Bien, des joueurs offensifs, oui, mais en même temps, il y a deux mois, on n'aurait peut-être pas qualifié Yoel Armia de joueur offensif.
Bien.
Mais Joshua Roy bénéficie du nouveau Yoel Armia, la version améliorée.
Version 4.0.
Ben oui, exact. Qui est vraiment qui est méconnaissable depuis quelques semaines, là, faut le reconnaître. Donc, tu sais, je pense pour vrai qu'il y a ça qui l'aide. Tu sais, c'est Armia, Monahan, ces deux gars quand même avec des bons physiques. Donc, tu sais, ça fait un mélange quand même intéressant. Puis, tu sais, je pense que Monahan aussi connaît une de ses bonnes périodes là, de la saison. Donc, c'est sûr qu'en ce sens-là aussi, on l'a mis dans un environnement à succès. Ce que je trouve intéressant pour Roy aussi, c'est qu'il a connu ses deux meilleurs matchs à l'étranger. Tu sais, des fois, pour les jeunes aussi, tu sais, c'est plus facile de les protéger à domicile, de leur donner des confrontations plus favorables. Tu n'as pas ce luxe-là sur la route. Et malgré tout, tu sais, s'en est bien tiré. Mm-hmm. C'est sûr que pas les deux matchs sur la route, ça a été... De ces quatre matchs, ben, ça a été les deux adversaires les plus faibles sur papier, là. Ça, faut le reconnaître. Mais ça reste que, tu sais, de voir qu'il a été capable de prendre sa place dans des matchs à l'étranger, c'est des signes encourageants pour Roy.
Avant
Mais
qu'on...
peu importe.
Vas-y,
peu
Stéphane,
importe,
vas-y.
Peu importe le match, le nombre de matchs qu'il va rester à Montréal, ça va avoir été une belle expérience pour lui, dans le sens que, puis Richard en a parlé, de voir, OK, c'est quoi la Ligue nationale, c'est quoi qui me manque, c'est quoi que j'ai à travailler. Et surtout, tout le voyage sur la route, il était très impressionné et ça l'est impressionnant. La première fois que tu voyages avec une équipe de la Ligue nationale, les avions de première classe, la nourriture incroyable qu'il y a dans les avions, les hôtels de luxe, la façon que les déjeuners à l'hôtel, les repas sont allés prendre un bon repas la veille dans un grand restaurant. Et tout ça, c'est des petites choses qui c'était impressionnant. Puis ça, il vit ça pour la première fois. Donc, tout ça mis ensemble, c'est une belle expérience pour lui.
Oui, puis tu sais, les gars clairement s'occupent bien de lui. Et Roy me racontait que David Savard, il a dit, regarde, tu paieras rien cette semaine, on s'occupe de toi, tout ça. Puis donc, tu sais, je disais, ça, c'est quand même aussi des belles façons. Tu sais, puis il l'a dit après le match à New Jersey, là, je sens un peu plus que je fais partie de l'équipe, je me sens pas comme un remplaçant. Puis ça, c'est des petits détails.
Mais il paye rien. Il paye rien pour attendre parce que le mec, à un moment donné, ça va coûter cher, les parties des recrues.
C'est ça. Mais écoute, je me posais une question, puis Stéphane, puis on va s'arrêter là-dessus. Après, on va parler des Bruins avec Richard qui est déjà du côté de Boston. Je me dis, un gars comme Sean Monahan, OK? Sean Monahan, on le sait, on a entendu parler, là, tu sais, l'histoire de la transaction, arrivé à date limite. Le gars veut se magasiner un nouveau contrat. Et là, on t'amène avec toi sur ton trio un rookie, un gars de la Ligue américaine qui a pas d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu penses, Stéphane, que Monahan, il prend ça de jouer avec Joshua Roy?
Personnellement, je pense pas qu'il y ait un problème avec ça parce que c'est un bon vétéran. Ça aurait été un vétéran un selfish, peut-être qu'il dirait, hey, là, moi, là, je suis pas un baby sérieux, ça, là, puis je suis pas ça. Mais un bon vétéran comme Monahan, je pense qu'il prend ça du bon côté et puis comprend son rôle auprès d'un jeune demain.
OK, comme les sénateurs d'Ottawa cherchent des bons vétérans, là, c'est ça que tu me parles.
Exact.
OK, fait donc le Canadien aurait besoin des bons vétérans de même, dans le fond.
Mais disons qu'un Sean Monahan prend ça du bon côté, puis un Hoffman rappelle ça du mauvais côté.
Merci, Stéphane. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu sur Mike Hoffman.
OK, hey, on s'arrête là-dessus. Pour retour, on va parler du Boston.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Certitude Zone, saison 5, épisode 31, avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane White. Commençons avec le Boston et notre ami Richard qui est sur place là-bas. Richard, effleurez un peu les Bruins qui sont dans une séquence. C'est quoi, 3 victoires de suite pour les Bruins de Boston qui ont gagné entre autres 4-3 contre Saint-Louis, victoire de 3-0 contre les Devils, 5-2 contre le Colorado. Disons qu'on ne doit pas être trop énervé de voir arriver le Canadien.
Oui, mais tu sais, en même temps, comme je te disais tout à l'heure, le Canadien est très, très parfaitement capable de débarquer là samedi soir puis d'être compétitif. Le Canadien, généralement, joue à la hauteur de l'adversaire, comme je le mentionnais. Donc, demain, l'adversaire va être les Bruins de Boston, meilleur club, évidemment, dans cette conférence. Ben, le meilleur club de la Ligue, du coup, je pense, je me trompe pas.
Les Canucks de Vancouver sont un.
Oui, les Canucks sont juste en avant, oui. Mais le Canadien a l'habitude d'être à son mieux contre ces clubs-là. Alors, moi, demain, je m'attends à ce que le Canadien soit parfaitement compétitif. Par contre, ce qui est difficile, c'est de gagner ici. Parce qu'à Boston, les Bruins ont perdu seulement 3 fois depuis le début de l'année en temps réglementaire devant leurs partisans. Ça, c'est la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey à domicile. Ils sont très, 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 très bons. On parlait du différentiel tantôt, eux autres. Là. Oh boy, c'est plus 33. Le Canadien est de l'autre bord à moins 31. Donc, c'est sur papier, c'est sûr que ça semble inégal. Mais encore une fois, le Canadien qui l'a prouvé à maintes reprises depuis le début de la saison, qui est capable de jouer contre ces clubs-là. Alors, je m'attends que ce soit compétitif malgré tout demain.
C'est fou. C'est quand même un cycle qui ne finit plus de connaître du succès, les Bruins. Hein?
Tout à fait. Absolument. Mais tu sais, cela dit, quand on dit le Canadien à la hauteur des adversaires, oui, le Canadien avait joué un très bon match contre Boston à Montréal, mais la semaine suivante, à Boston, le Canadien s'était fait humilier. Là. Je veux dire, ça avait pas été un score. Le Canadien avait perdu ça 5-2, donc tu sais, le score était... ça va, mais c'était vraiment deux équipes dans deux mondes. Mm. Et puis, souvenez-vous, c'était le match où Saint-Louis avait dit, tu sais, que j'avais vraiment comme complimenté son équipe et tout ça. Puis je disais, c'est un de ces matchs, là, un de ces fameux pas de recul là, du Canadien. Là, sauf que cette fois-là, c'était arrivé contre une bonne équipe. Mais c'est ça, le Canadien s'était littéralement écrasé à Boston. Donc, moi, il y a ça qui va être intéressant à surveiller. Là, c'est-à-dire que, tu sais, je sais que toutes les défaites ont la même valeur, là, puis tout ça, mais je pense que te faire battre à plate couture à Boston un samedi soir, tu sais, il y a certaines défaites, je pense, qui marquent plus, puis il y a certains matchs que tu veux où tu veux moins. C'est pas un petit mercredi à Columbus, là, c'est un samedi soir à Boston. Mm. Donc j'ai hâte de voir quelle réponse le Canadien va avoir.
Tu sais, les Bruins de Boston, on en parle, c'est un club qui est bâti solide, c'est un club qui est capable de gagner en saison régulière, capable de gagner en série de fin de saison, qui est capable de jouer physique, qui est capable de jouer comme les Devils New Jersey, comme l'Avalanche du Colorado, on passe vite, on frappe fort. Sincèrement, Stéphane, je regarde ça, puis tu sais, on a tellement parlé de reconstruction chez les Canadiens, j'ai l'impression que la reconstruction, c'est juste l'étape 1. Après, c'est faire un vrai club de hockey avec ça, puis un club de série. On est loin, là.
Oh, c'est certain. Si tu compares justement aux Bruins, écoute, eux, c'est de la culture qui se transfère de génération en génération, de vétéran en vétéran. Et puis ça, c'est de la culture qui se transfère. Et quand tu perds ça pendant une période de temps où que tu perds cette culture-là, c'est très long à la rebâtir. Et c'est là qu'on est rendu avec le Canadien. C'est de rebâtir cette culture-là qui, à un moment donné, quand on va l'avoir, on va pouvoir la transférer au niveau, aux générations qui vont suivre. Et c'est le plus gros problème du Canadien en ce moment, si on compare avec les Bruins. Et puis, écoute, je regarde l'alignement des Bruins. En passant, les Bruins, il y a un gars qui fait très, très bien dans cet alignement-là, un certain Sean Monahan, on vient d'en parler. Wow. Et puis, c'est le genre de centre qui ont besoin. Après Zaka, puis l'autre, c'est Coyle. Après ça, c'est très difficile. Il manque beaucoup de profondeur au centre. Et puis les Bruins vont être à la recherche d'un Sean Monahan. Et s'ils ont un Sean Monahan, cette équipe-là, là, wow! Je mettrais un vieux 2 en papier sur eux autres.
OK, ben, série. Si, si, mais, ouais. si mettent Pasternak dans la transaction, on dit oui.
Mais tu sais, pour les Bruins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'importance du recrutement aussi, du recrutement de qualité. Et ça, ils continuent à le faire année après année. Tu sais, pendant certaines années, on parlait, bon, Brad Marchand qui a été repêché quand même, tu sais, qui a été repêché plus tard. Tu sais, même Lucic, Patrice Bergeron, c'était pas des choix de premier tour. On a longtemps parlé de ça, mais ça continue à s'ajouter. Et puis là, ben, tu sais, c'est pas juste des super vedettes, c'est des gars aussi dans des bons rôles intermédiaires ou de soutien. Trent Frederick, tu sais, qui est un choix de fin de premier tour, lui, on risque de le voir beaucoup contre le Canadien. C'est un joueur qui frappe, justement, on parlait du Canadien qui aime pas se faire frapper. Lui, il frappe, il a de l'énergie, mais il est en route sur une saison de 20, presque 25 buts cette année. Donc, tu sais, je veux dire, oui, ça a pris du temps, tout ça, on a pris notre temps, mais c'est correct. Puis là, ben bon, on voit que ça arrive tranquillement à maturité. T'as eu Mathieu Poitras en début de saison aussi, même qui, lui, contre toute attente, à 19 ans, fait une place dans l'équipe, tout ça. On va voir, je suis pas convaincu que ça va être un joueur qui va être encore un contributeur là, une fois en série, mais tu sais, s'il t'a aidé à faire un bout de chemin. Donc, tu sais, c'est des espèces de trouvailles comme ça. Tu sais, Poitras, c'est un fin de deuxième tour, puis on a réussi à le trouver, puis à avoir de l'aide déjà de ce gars-là dès sa, tu sais, un an après son repêchage.
Ce qui est surprenant et probablement étonnant, on a parlé de Patrice Bergeron, n'importe quel club qui perd un joueur de cette trempe-là, c'est à peu près impossible de ne pas t'en ressentir. Généralement, il y a quand même une petite baisse. Ça paraît, c'est un trou énorme que tu dois combler. Et là, malgré tout ça, c'est incroyable. Bergeron est parti et les Bruins sont encore là où ils sont présentement, où ils sont depuis très longtemps, sont en haut. Et moi, ça me fascine. Tu sais, Kent Hughes, je reviens encore à lui. Son bilan de mi-saison lundi, il a parlé de cet aspect-là, il a parlé de la profondeur. Et l'instant où Kirby Dach est tombé, on a su que, ou en tout cas, on pouvait croire que la saison du Canadien de Montréal allait prendre une autre tournure. L'instant où ce gars-là est parti. Et c'est même pas un gars qui est comparable avec, évidemment, Patrice Bergeron en termes de stature. Alors, comment tu peux perdre des gars comme ça, puis aller dans des tangentes différentes, ben c'est ça. C'est une question de profondeur. Les Bruins ont très, très bien développé, repêché n'importe quoi. C'est un département des dépisteurs qui est absolument phénoménal et ça donne ce qu'on voit. Du côté du Canadien, ben clairement, on s'est trompé souvent. Un peu partout, à la table de repêchage, à la table des décisions, qui on embauche, qui on garde, on s'est trompé beaucoup. Et puis, on peut voir un petit peu les résultats. Je pense que la tangente des deux clubs là, s'explique beaucoup par ça.
Je veux savoir une chose, Richard. Je sais pas si c'est à l'entraînement de ce matin, mais je voyais Jim Montgomery avec une grosse chaîne en or dans le cou avec le visage de Pasternak. Je sais pas, est-ce que tu as vu les images? T'es-tu au courant de cette affaire-là?
Ben, la chaîne en or, c'est parce qu'on donne ça généralement, on remet ça aux joueurs du match là, okay. Après chaque rencontre. Ouais.
C'était le coach qui avait ça sur la glace. Fait que donc, tu vois l'impact de ce gars-là. Jim Montgomery arrive là-dedans. C'est un club qui est là pour gagner. Il a une attitude complètement décontracte. Ça fait peut-être la différence, Stéphane, hein, quand tu vois un gars, un coach qui est calme comme ça.
Oui, j'adore que la job de Jim Montgomery à Boston depuis 2 ans, là, c'est incroyable. Il a l'air d'un gars, les joueurs ont l'air à l'aimer, les joueurs ont tout le temps des très bons commentaires pour lui, et quand il parle, c'est tout le temps posé, intelligent, j'adore ses entrevues. Écoute, je pense que c'est toute une embauche par les Bruins qui ont donné une deuxième chance après
la mésaventure
qu'il y a eu à Dallas. Il a réglé ses problèmes personnels. Il est revenu fort comme adjoint. Les Bruins, quelle acquisition qu'ils ont faite quand ils ont donné une deuxième chance.
Richard, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
Ben, j'allais dire, c'est que lui, ce matin, quand on lui a parlé, puis il nous répond en français en passant de manière très, très cordiale, nous parlait beaucoup de cette culture-là. Puis, tu sais, évidemment, quand ça a commencé un petit peu ce cycle-là, avec les Bruins de Boston, avec la Coupe Stanley de 2011, évidemment que lui n'était pas là. Puis il y a plusieurs de ces joueurs-là qui ne sont plus là. Mais c'est comme si cette ambiance-là était restée. C'est un petit peu ça qu'il nous expliquait ce matin ici. C'est qu'ils ont su garder cette culture-là au fil des années, malgré les coachs qui ont changé ou les joueurs qui sont partis et d'autres qui sont arrivés. Donc ce bout-là et très, très impressionnant. Puis, JR, avant que tu me le demandes, il y a eu depuis quoi 24 heures, 48 heures, des rumeurs. Puis ça, c'est, je déteste ça, mais on est à l'heure des réseaux sociaux, tout s'enflamme. Des rumeurs de retour possible pour Patrice Bergeron. Ça a été ma première question aussi quand je suis arrivé ce matin. Mais on m'a clairement indiqué que M. Bergeron est très bien présentement à la maison.
Ah ouais, des rumeurs, là. J'ai pas vu ça. Ben écoute.
Ouais, c'est un podcast d'un ancien joueur. Là,
bon, mais tu vois, regarde, Richard, tu tues ça dans l'œuf, toi. T'es allé aux sources, puis on dit, ne oubliez ça, il n'y aura pas de retour de Patrice Bergeron. OK, hey, restons dans le festival de la rumeur. Là, on a. Écoute, ça c'était spécial. Trevor Zegras avec les Ducks d'Anaheim. Dans le plusieurs, ben écoute, on pouvait lire à gauche, à droite, rumeur de transaction avec Montréal. Et là, le nom de Caden Goulet est avancé là-dedans. Les gars, je vais laisser Stéphane, dans un premier temps, donner son opinion. S'il y a une rumeur de transaction qui amène Trevor Zegras avec le Canadien et ça implique Caden Goulet, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est un oui ou c'est un non, Stéphane?
C'est un non catégorique, puis je raccroche la ligne. Tout de suite, écoute, Zegras, là, je crois, c'est le fun avec ses buts Michigan, puis mais il joue pas au hockey de la bonne façon. Il joue pour lui, il joue pour donner un spectacle. Mais tu gagnes pas avec ça. Oui, beaucoup de talent, mais c'est un kid qui s'aime beaucoup, qui aime donner un show et qui est même arrogant. C'est un gars là que si tu fais un concours, un des joueurs les plus détestés dans la ligue, là. Tu vas sûrement avoir Marchand dans le groupe, mais Zegras va être là. Et puis, c'est un gars qui est arrogant, souvent, qui va narguer l'adversaire. Et puis, il joue pas de la bonne façon. Et s'il y a une raison pourquoi que son nom est dans les rumeurs, il doit avoir une raison. À 21 ans, un gars avec beaucoup de talent comme ça, qui veut, avec un club en reconstruction, qui ont besoin d'attaquants, et son nom est sur le marché. Il y a une raison pour ça. Je touche jamais à ça. Et surtout pas pour un Caden Goulet qui sont rares les défenseurs qui peuvent jouer dans un top 2, 21 ans, et surtout un kid mature qui va devenir un des grands leaders du Canadien de Montréal.
OK, là, Stéphane, on va aller voir. Là, on sait que toi, t'aimes pas ça. Là, sur les fantaisistes du hockey, on va aller voir les gars de la presse. Qu'est-ce qu'ils en pensent, Guillaume? Si on implique Zegras, il y a un Goulet là-dedans, est-ce que c'est un oui, c'est un non?
C'est un non également.
Ah oui?
Ouais, exact. Cela dit, tu sais, on dit souvent de comme, au hockey, dans le fond, comme à la bourse, là, buy low, là, acheter bas. Et effectivement, avec 7 points en 20 matchs cette année, ben c'est peut-être un moment pour buy low dans le cas de Zegras. Sauf que si ton prix, c'est Caden Goulet, ben là, t'achètes pas bas, là. C'est pas bas comme prix, de toute façon. Donc, c'est pour ça que, tu sais, vraiment, donc, non, à ce coup-là, je le fais pas du tout. Si les Ducks en viennent désespérer, tout ça, à ce moment-là, oui, j'ai pas de problème parce que ça reste que Zegras a un certain talent, et le Canadien, on l'a souvent dit, mais manque de ce talent offensif-là. Sauf que, à cause de tous les drapeaux rouges que Stéphane vient de nous énumérer, ben, c'est sûr que moi non plus, je vendrais pas.
Mais le Canadien, ça n'est pas fait une spécialité, ça, des fois, d'aller chercher des choix de première ronde qui, des fois, étaient suspects un peu, puis va se relancer avec nous autres.
Mais tu sais, j'ai vu passer un commentaire sur Twitter, quelqu'un disait ça serait un autre Sergachev-Drouin. Ça serait une autre transaction dans ce genre-là.
Effectivement, ça pourrait ressembler à ça.
Oui, donc c'est ça. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver justement un bon défenseur, un potentiel de potentiellement de premier duo. C'est pas mal plus difficile à trouver que de trouver un attaquant comme Zegras, malgré son grand talent. Et puis je pense qu'un défenseur de la trempe de Goulet, une fois à maturité, va avoir un beaucoup plus gros impact sur son équipe que ce que Zegras va avoir. Ça, surtout dans le cas de Goulet, si on ajoute tout le côté hors glace aussi, où il semble être, du moins de l'extérieur, là, tu sais, semble pas être nécessairement un cas difficile à gérer dans un vestiaire.
Richard, de ton côté, ouais, comment tu vois ça? C'est un oui ou c'est un non?
Ben, j'en prends puis j'en laisse avec les histoires de caractère, puis c'est pas une bonne personne, parce que, tu sais, on a dit ça à Buffalo, on a tellement dit ça de Jack Eichel que c'est pas coachable, puis c'est le pays qui a occupé l'histoire de l'humanité, puis regarde, Jack Eichel, il est parti, puis il a gagné une coupe cette année pendant que les Sabres de Buffalo attendent encore de faire quelque chose de même pas proche de ça. On a dit la même chose à Toronto de Phil Kessel qui était pas coachable puis que c'était le pays coéquipier du monde puis Kessel est parti puis ça a très bien été pour lui. Alors moi j'en prends et j'en laisse avec ça. Dans le cas, c'est parce que le problème avec le Canadien présentement, c'est le suivant, là. C'est que, OK, bon, parfois, on est en train de bâtir quelque chose en défense, puis là, on a des espoirs en défense, puis ça déborde de tous les bords, puis il y en a à l'avant. Bon, bien, à un moment donné, il va falloir comprendre que c'est une ligue offensive et que le Canadien n'a pas de ce type de joueur-là. Et tu ne gagneras pas de même. Là, ça, c'est une autre affaire. Là, si on regarde les champions dans les dernières années, tu gagnes comment? Tu gagnes souvent avec une ligne de centre qui est absolument explosive et tu gagnes parce que tu es capable de générer quelque chose en attaque. Alors, il va falloir, je ne sais pas si c'est Zegras ou n'importe qui d'autre, mais il va falloir que le Canadien éventuellement mette la main sur un joueur comme ça, en tout cas, qui serait capable de produire des buts, qui serait dangereux et surtout qui enlèverait de la pression à Cole Caulfield. Parce que là, présentement, c'est facile de surveiller un trio quand tu joues contre le Canadien, mais si tu avais au moins un autre gars dangereux sur le deuxième trio, capable d'être une menace à chaque soir, ça changerait, je pense, un petit peu les choses, puis ça ferait en sorte que Caulfield aurait plus d'opportunités. Alors, éventuellement, écoute, c'est pas Zegras, OK, parfait, je peux comprendre ça, tu veux pas donner Goulet pour lui, je trouve aussi que c'est un prix très cher payé, mais éventuellement, cet été, parce que là, je crois comprendre que le Canadien vise les séries pour la saison suivante, bien, il faut que cet été, t'en trouves un scoreur, là, parce que tu n'as pas un à Laval, tu n'as pas un dans tes rangs, ça t'en prend un.
OK, moi, je suis d'accord avec ça. La seule chose que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que on se confond des fois entre un club qui gagne en saison régulière et un club qui gagne qui essaie de tenter de gagner la Coupe Stanley. Avec Zegras, là, tu vas gagner en saison régulière, tu vas passer au Fessayant, il va être au match des étoiles, il va avoir un bébé Yoda sur lui, ça va être sublime. Mais pour gagner en série, là, c'est le festival de chez Weber, là. C'est le festival de chez Weber.
Totalement d'accord. Tu vends des billets avec lui, mais tu gagnes pas dans la série.
Mais il joue avec un des pires clubs depuis 4 ans, avec les Ducks d'Anaheim. C'est sûr que les opportunités de gagner sont pas très élevées, là. Je veux dire, il faut comprendre ça. J'entends les mêmes affaires que j'entendais à Buffalo avec Jack Eichel présentement.
Ouais, mais Jack,
il y a une affaire qu'il faut se poser. Pourquoi les Anaheim veulent le changer?
Exact.
Il doit une raison.
C'est pour la même raison que les Sabres ne voulaient plus Jack Eichel. Même raison.
Non, mais il y a quelque chose que Jack Eichel ne fait pas que Zegras fait. Il nargue l'adversaire. Zegras, là, un moment donné, est arrivé avec un Michigan, il a gagné, marqué contre le Canadien. Et l'attitude là, qu'il y a eu devant un gars avec les bras ouverts. Premièrement, moi, on fait-tu une petite confession? Moi, là, les célébrations, quand le gars marque un but, qu'il s'en va tout seul de son côté, j'ai de la misère. Deuxièmement, qu'il s'en va avec les bras en croix devant tout le monde. Ouais, le gars, ouais! Écoute, dans les années 90, c'était un double échec, ça.
C'est sûr que quand ton DG, c'est Pat Verbeek, en plus, sachant le type de joueur que Pat Verbeek était, ça peut expliquer la question qui était soulevée plus tôt, pourquoi les Ducks veulent s'en débarrasser. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est sûr, quand on sait ce que Pat Verbeek était comme joueur et qu'on voit ce que Zegras est, il y a un choc de génération, je peux comprendre, mais c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose. Là.
Il est arrogant, honnêtement. Puis Stéphane, tu t'en souviens quand il a fait le Michigan puis il regardait tout le monde en disant « What a go, what a go, big boy! »
Il est souvent impliqué dans des escarmouches parce qu'il nargue l'adversaire, il passe devant le banc de l'adversaire, un petit mot, un petit sourire, souvent impliqué dans des mots juste de niaiserie comme ça. Puis...
Mais ça, à 22 ans, je pense que ça se coach. Ça, tu peux avoir quelqu'un là, à 22 ans pour lui dire, regarde, voici de la manière que ça va fonctionner maintenant.
Le problème en AM, c'est qu'en ce moment, ils n'ont pas un vétéran pour le lasser, pour dire, hey, toi, là, ces niaiseries-là, là, c'est fini.
Hey, le poodle, ça arrête là, là. Ça arrête là, ces niaiseries-là. OK, hey, nous, on doit s'arrêter là. On va faire une courte pause pour retour. On va se parler des Kings de Los Angeles. Hey, ça va pas. Oh, mais ça va pas du tout. On était bâti pour aller loin, là. Et quand on commence à avoir une crevaison, petit brin.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
On On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 31 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane Waite. Les gars, je vais vous parler des Kings de Los Angeles et je vais vous faire référence à des mots qui ont été amenés dans notre balado. OK, Richard, au mois de novembre, m'a dit, parlant des Kings à Los Angeles...
La reddition des comptes.
Le Canadien est une équipe à des années-lumière des Kings. Guillaume, lors de la visite des Kings au Centre Bell en décembre, a dit, venant d'une équipe, parlant des Kings, une équipe qui aspire aux grands honneurs. Les Kings de Los Angeles, 10 défaites à la 11 derniers matchs, et là, sont à la porte d'être exclus des séries de fin de saison. Le coach Rob Blake, pas le coach, mais le directeur général Rob Blake, a dû donner un vote de confiance à son coach Todd McLellan. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Kings de Los Angeles? Guillaume, je commence avec toi.
Ben, premièrement, il y a quand même des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que...
Bon, les défaites!
Ben, c'est ça. Ben, quatre des 10 défaites ont été, dans le fond, 2 en prolongation, 2 en tir de barrage. Donc là, en partant, t'as des matchs quand même serrés. T'avais un voyage de 6 matchs quand même sur la route, qui était 6 matchs en 10 jours, là, à l'étranger. Donc, tu sais, il y avait des circonstances pas évidentes. Et, tu sais, quand tu regardes les pointages, là, je vous cacherai pas, j'ai pas regardé les 11 matchs des Kings en question, mais c'est quand tu regardes les pointages, ne se sont pas fait non plus déclasser à tout bout de champ, là, à part une défaite de 5-1 à Dallas. C'est pour le reste, tu vois que c'est quand même des pointages serrés. Donc, basé sur tout ça, basé sur ce que l'équipe a montré dans les 2 premiers mois, je pense que t'as quand même des arguments comme dirigeant pour garder espoir et dire, regarde, t'sais, chaque équipe, on le voit souvent, t'sais, des équipes qui font un bon bout en série vont quand même rencontrer des difficultés en cours de route, vont avoir un moment pendant la saison. Donc, tu sais, je pense que basé sur tout ça, il n'y a pas nécessairement de quoi paniquer là, pour le moment.
Il doit y avoir du monde qui panique, ça, c'est sûr et certain.
Oui, exact.
Tu sais, mais faut juste dire que le Canadien est première équipe dans la Ligue nationale pour avoir perdu des matchs avec la différence d'un seul but. Est-ce qu'on dit que c'est des matchs serrés ou des matchs qui avaient l'avance que l'autre club est revenu? Ça reste à voir. Mais clairement, Richard, comment tu vois la situation des Kings de Los Angeles?
Ben, écoute, c'est... si j'étais la direction de cette équipe-là, je prendrais une petite respiration. Je garde, on s'assoit. C'est pas un drame. C'est pas quelque chose que tu peux pas appuyer sur le bouton de panique. Souvenez-vous, quand le Canadien a joué contre cette équipe-là, souvent, là, on parlait du fameux système 1-2-2 que personne n'était capable de...
Non, c'est le 1-3-1-3-1.
Ça a l'air que quelqu'un... Ah, ouais, c'est ça, 1-3. Non, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a réussi à l'élucider, apparemment. Mais ils sont encore dedans. Au moment où on se parle, sont encore dans le portrait des séries. Alors, c'est pas perdu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe-là. Je vois un différentiel de plus 25 qui est quand même très bon. Alors, on va appeler ça une mauvaise passe. Je pense que l'équipe va se replacer après ça.
Stéphane, c'est-tu juste une mauvaise passe selon toi?
J'espère pour eux, mais il y a une affaire que je sais. C'est que Cam Talbot a besoin d'aide.
Oh!
Et puis, et le gars, là, à 36 ans, là, a déjà joué dans 30 matchs sur 42. Il est sur un pace de proche de 60 matchs, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour Cam Talbot. Cam Talbot a fait tout un travail depuis le début de la saison. Il s'est maintenu parmi les 3 meilleurs gardiens de but au niveau des statistiques depuis le début de la saison. Et depuis 3 semaines, ses statistiques ont dégringolé. Il vient de donner 20 buts dans les 5 derniers matchs. 20 buts dans les 5 derniers matchs. Cam Talbot a besoin d'aide. Son numéro 2 est blessé. Il finit pour l'année. Phoenix Copley finit pour l'année. Et on a David Rittich, un gardien de but, qui a de la misère à s'établir comme numéro 2 dans la Ligue nationale. Donc, ça m'inquiète. Ce côté-là m'inquiète. Mm. Le reste, je suis pas inquiet. C'est une équipe qui a des bases solides. 3 très bons centres. Des centres qui peuvent jouer dans les 2 côtés de la patinoire, les 3, ça c'est rare. Je suis pas inquiet pour le reste, ça va se replacer. Ils ont besoin d'aide dans le filet. Je blâme pas Cal Talbot. Tout ce qu'on lui donne, c'est trop. Simplement.
Okay. Juste savoir une chose, Stéphane, c'est pas Marc Bergevin qui t'a cherché Jake Allen?
Exactement. Bon point.
Il est où Marc Bergevin, là?
Exactement. En ce moment, il est à Los Angeles.
Tout est dans tout, encore une fois.
J'aime ça, JR. J'aime ça. Et c'est le profil Jake Allen qui pourrait donner un répit à Cam Talbot. Puis je dis pas de jouer plus que Cam Talbot puis de voler la job à Cam Talbot parce qu'il y a, une très bonne saison jusqu'à maintenant, mais ça sera le genre de gars qui pourrait l'appuyer et donner un repos régulièrement. Et j'aime la relation que tu viens de faire.
Juste une petite chose, par exemple, c'est que Rittich, l'échantillon est encore court, mais jusqu'ici, il joue quand même pour 934 depuis le début de l'année. Hier, ils ont perdu 2-1 à Nashville. Donc, tu sais, je disais, oui, une défaite, mais une défaite de 2-1, 2 buts sur 33, tu sais. Donc, tu sais, je disais, statistiquement, Rittich, pour l'instant, ça va. Donc, tu sais, peut-être aussi que les Kings vont vouloir donner un petit peu plus de travail à Rittich, voir qu'est-ce qui arrive. Mais je suis d'accord avec Stéphane que, je disais, bon, il y en a eu des chances de s'établir comme numéro 2. Dans les dernières années, il ne l'a pas fait. Mais là, jusqu'ici, ça va bien. Donc, il faudra voir si les Kings vont vouloir tester un petit peu plus ce qu'ils ont avant de passer à l'option transaction.
En passant pour les Kings, on change un peu de sujet. Là. Ouais. Ça va être intéressant de voir samedi soir le retour de Jonathan Quick à Los Angeles. Jonathan Quick, qui est le meilleur gardien de but de l'histoire des Kings à nouveau, de toutes les stats, les parties jouées, les victoires, les blanches charges. Il y a tous les records des Kings, plus que Rogatien Vachon.
Oui, j'allais dire, Rogatien doit être en haut de ça.
Oui, non. Quick a battu tous les records de gardien de but dans l'organisation des Kings. Et puis, en avant de Rogatien Vachon. Donc, j'ai hâte même de voir ce retour-là.
Même en haut de Mario Lessard.
Même en haut de Mario Lessard, mon concitoyen en Estrie. Oui.
Ah oui, mon Dieu, on ressort des noms, Mario Lessard. Hey, parlant de gardien de but, juste une petite dépêche rapide. Les Hurricanes de Caroline ont réclamé au balotage gardien des Blue Jackets.
Oui, Spencer Martin. Donc, geste, décision intéressante des Blue Jackets quand même. On sait que c'est une des équipes, dès qu'il est question des possibilités de transactions pour le Canadien, pour Jake Allen, les Hurricanes est une des équipes qui reviennent. Alors, ils n'ont pas fini leurs expériences visiblement avant de se tourner vers le marché des transactions. Spencer Martin réclamé des Blue Jackets.
Autre point qu'on va aborder rapidement avant qu'on termine, on va se parler de Jim Rutherford qui a été prolongé de 3 ans avec les Canucks de Vancouver. C'est drôle, la Ligue nationale de hockey, c'est une histoire de passion, hein? C'est une histoire de flash. Quand ça marche, quand t'as du succès et que ça signe pesant puis ça signe longtemps. Richard, les Canucks, c'est là pour rester, c'est quelque chose qui va marcher. C'est sûr que Rick Tocchet a changé un peu à la donne, mais comment tu le vois, le travail de Rutherford avec les Canucks?
Ben écoute, t'es obligé de regarder un petit peu le chemin qui a été parcouru. T'sais, souvenez-vous, là, les Canucks l'an passé, c'est quand même un club qui a fini 22e au classement général de la Ligue nationale de hockey. Et là, au moment où on se parle, ils sont premiers. Donc, à quelque part, tu dois récompenser les gens qui prennent des décisions. Et lui, écoute, on a pris des bonnes. Et je suis parmi les sceptiques. Honnêtement, pour moi, les Canucks, là, après l'an passé, je voyais là un club qui allait continuer à descendre. Et pour moi, c'est une très grande surprise de voir cette équipe-là où elle se trouve présentement. Alors, c'est le moment des récompenses. Et tant mieux pour M. Rutherford.
On sort les Kennedy, on mange des Kennedy.
En passant, Rutherford, c'est le Jeff Gorton des Canucks. Parce que c'est le GM et Patrick Alvin. Et puis, c'est le fun de voir ça. Puis, il fait un bon job, le gars. Il a une bonne réputation. Il a fait un bon job en Caroline. Il a fait un bon job à Pittsburgh. Une très bonne réputation. Mais surtout... il y a une réputation où que le monde aime travailler pour lui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé Rick Tocchet, qui était clairement l'entraîneur-chef dont son groupe avait besoin, qui était le profil dont le groupe avait besoin, si on se fie aux résultats. L'autre chose que je trouve intéressant par rapport à lui, c'est que dans nos pages, Simon-Olivier Lorange, notre confrère, qui a interviewé Jacques Martin là, en compagnie de Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, et une des choses que Jacques Martin leur a dit, leur parlait du besoin de bons vétérans, et il a nommé les Canucks, en exemple, en disant que les Canucks ont été chercher justement ces bons vétérans-là. Puis là, il a nommé Ian Cole, Sam Lafferty, Teddy Bluger, donc des anciens de l'organisation des Pingouins, justement, que Rutherford et Alvin ont rapatrié là-bas. Donc, j'ai quand même trouvé ça intéressant que ce soit cet exemple-là que Jacques Martin a cité.
Un homme d'expérience, Rutherford, quand même. 74 ans, comme quoi l'expérience encore une valeur dans la Ligue nationale de hockey. Et que tout n'est pas juste bébé Yoda sur la bédaine en point de presse. Je l'ai dit. Hey, ceci étant dit, on complète le balado sorti de zone. Merci énormément, messieurs. Ça fut un plaisir encore une fois. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous.
Merci, JR.
Richard Labbé, merci beaucoup d'avoir été là, live from Boston.
Merci, Jérémy.
À la prochaine. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane.
Merci, les gars. Bon week-end. Merci.
Bon week-end à tous. C'était Sortie de zone, épisode 31. Nous, on se parle lundi prochain, le 22 janvier.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.